Aujourd'hui, nous allons méditer sur la réconciliation. Et je crois que c'est quelque chose qui a toujours été, mais c'est une urgence. C'est vraiment une urgence pour notre pays, pour nos familles, pour nos couples parfois aussi, pour nos enfants ou petits-enfants, le cas échéant. Et je trouve que de ce côté-là, il est bien de rappeler que le cœur de la mission de Jésus, c'est la réconciliation, c'est le pardon. Je dis ça parce que bien souvent, on a mis l'accent dans l'histoire de l'Église, ou peut-être encore maintenant, où on assimile le message de l'Église plutôt à des normes morales, en matière familiale, en matière matrimoniale, d'accueil de la vie, etc., bon, de respect de la fin de vie, bon, et c'est tout à fait juste. Mais à trop mettre l'accent sur ces questions-là, on en oublie parfois le cœur de la mission du Christ, qui est le pardon. C'est vraiment, je suis venu pour que, pour les pécheurs, je ne suis pas venu pour les justes. Et nous-mêmes, je trouve que comme Église du Christ, nous devrions davantage être présents au plan de la société et au plan aussi de l'Église sur cette dimension de la réconciliation. Nous y sommes présents d'une manière ou d'une autre. Vous connaissez peut-être cette communauté qui s'appelle Sant'Egidio, qui est une communauté d'origine italienne qui a réalisé un certain nombre de médiations au cœur même de conflits armés, particulièrement en Afrique. Mais ça reste une petite exception, ou alors je lisais il n'y a pas très longtemps dans la presse le cardinal archevêque de Port-au-Prince en Haïti, qui a fait aussi une médiation pour arriver entre deux partis politiques, les partis politiques en présence en Haïti, que l'on puisse au mois d'octobre arriver à une élection. Vous voyez, mais je trouve que ça reste des quelques exemples, des beaux exemples, mais trop peu nombreux. Et peut-être l'Église n'est pas assez identifiée avec cette mission de réconciliation, cette mission de médiation. Parce que le Christ, c'est vraiment, il est réconciliateur en étant médiateur. Mais médiateur de façon tout à fait particulière. Le week-end passé, nous avons eu un très beau week-end avec les jeunes professionnels, ils étaient une soixantaine. Et j'avais invité le bâtonnier du barreau de Paris, une femme, qui venait juste de terminer son mandat fin 2013, qui a insisté beaucoup dans son bâtonnat, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire l'exercice de sa responsabilité, sur la question de la médiation, pour remplacer les procès, ou pas remplacer, mais en tout cas donner une alternative à la voie judiciaire, par la réconciliation et la médiation. Mais c'est très intéressant de voir comment le Christ est médiateur. Le Christ est médiateur, mais pas comme nous pourrions être médiateurs. Le Christ est médiateur, alors que nous, dans une médiation, on demande que le médiateur n'appartienne à aucune des deux parties belligérantes, ou en tout cas en conflit, le Christ, lui, est médiateur en appartenant aux deux parties qui sont éloignées. L'homme et Dieu. Et je trouve que c'est vrai, il est le médiateur. Nous sommes, particulièrement la foi catholique, la religion de la médiation. Nous sommes la religion de la médiation. Vraiment, et je trouve qu'on n'est pas assez imprégné de ça. La religion de la médiation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans le il y a ces médiations humaines que représentent les sacrements, que représente le sacerdoce, ces médiations humaines pour aller vers Dieu s'enracinent dans le médiateur qu'est le Christ. Et même saint Paul le dira, parce que des conflits, évidemment, ça revient pas, ça date pas d'aujourd'hui. Et il le disait dans les églises naissantes qu'il a fondées. Il disait, si vous avez un conflit, essayez de vous arranger entre vous, c'est-à-dire de faire une médiation, parce que ce serait un peu un contre-témoignage d'aller devant les tribunaux civils pour que des chrétiens se mettent d'accord dans un cas de dispute ou de conflit quelconque. Et je trouve que nous, cette réconciliation, c'est le cœur du cœur de la mission de Jésus. C'est la cinquième demande du Pater. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi. Il nous faut reprendre conscience que nous avons besoin d'être pardonnés. Nous avons besoin d'un salut. Parce que la réconciliation, c'est un salut. On est tiré de l'abîme par le Christ. Et du coup, parce qu'on est tiré de l'abîme par le Christ, on peut se remettre en communion avec Dieu et par un effet de domino, se remettre en communion les uns avec les autres. J'aime bien étudier un peu l'étymologie des mots, l'étymologie des... de façon à... Ça donne un peu une certaine... Nous avons une jeune mère de famille qui arrive. Voilà, donc du coup, et c'est intéressant de pouvoir... de voir réconciliation, par exemple. Réconciliation, c'est aussi lié dans l'étymologie à clarté. J'ai vu ça, quand j'ai un dictionnaire de l'étymologie, j'aime bien regarder d'où viennent les mots, et c'est lié à la clarté. Au fond, se réconcilier, c'est remettre dans la clarté ce qui était dans l'ombre, ou dans la ténèbre. C'est faire la lumière sur tel ou tel aspect d'une dissension, d'un conflit, d'une incompréhension. Et tout de suite, il faut distinguer réconciliation et pardon. Ce n'est pas du même ordre. On peut très bien pardonner sans se réconcilier. En revanche, on ne peut pas se réconcilier sans pardonner. Dans quel sens? Dans le sens où la réconciliation demande d'être au moins deux et de faire la démarche à deux. Le pardon peut être une démarche personnelle. Lorsque l'autre, et c'est bien souvent le cas, ne voit pas la difficulté, ne reconnaît pas le problème. Et même il vous dit, le problème c'est vous, ou c'est toi. C'est compliqué dans ces cas-là. Quand il y a une sorte d'obscurcissement de la conscience, ou une forme d'orgueil parfois, parce qu'on veut pas reconnaître, parce qu'on est des orgueilleux, et que voilà, ça je voudrais dire, demander pardon. Et quand on est agresseur, je trouve que de ce côté-là, c'est comme pour nous, c'est important de dire que s'il n'y a pas de réconciliation, c'est-à-dire à deux faire que l'amour circule à nouveau, à deux ou trois ou quatre, ça dépend un peu les circonstances. Ce qui est possible de faire, c'est d'avoir un pardon qui partira d'abord de soi et d'un travail sur soi. Nous avons plus prise sur le pardon que sur la réconciliation. C'est vrai aussi pour nos défunts. Parfois, on a encore de la rancœur pour un être défunt qui est cher et qui nous a causé du tort. Eh bien, il peut y avoir, bien sûr, pas de réconciliation par définition, mais il peut y avoir un pardon que l'on peut donner à un être défunt. Déjà en demandant des messes pour lui, en offrant l'amour de Jésus pour lui dans l'Eucharistie, et aussi en soi-même. Comment est-ce qu'on voit qu'on a pardonné? C'est penser à l'autre qui nous a fait du mal, y penser paisiblement. Oui. Oula.
Quand vous dites qu'il peut y avoir un pardon mais pas de réconciliation, ça veut dire qu'on occulte le fait que s'il est dans la gloire de Dieu, la réconciliation, on peut de toute façon aller.
Ah oui, d'accord, dans la gloire de Dieu, forcément, il y a de la elle existe. Mais nous, à vue humaine, nous ne sommes plus dans la gloire de Dieu, pas encore. Mais même si déjà, à Ourscan, évidemment, nous sommes dans l'antichambre de la gloire du Seigneur, ça c'est sûr. Mais
vous pensez que la réconciliation est donnée quand même.
Oui, on peut penser ça. Mais, je veux dire, il faut, dans une réconciliation, un dialogue aussi. Un dialogue et un échange. Et de dire, je te pardonne et je te demande pardon. Et pas de fait, dans le cas d'un fidèle défunt, on ne peut pas avoir cet échange par nature. Donc du coup, je crois que c'est en tout cas important pour nous de se dire que c'est toujours une possibilité que même si l'autre ne reconnaît pas ou ne peut pas s'exprimer, que nous-mêmes, intérieurement, nous fassions cette démarche, ce travail sur nous-mêmes, au fond. Hein, ce travail sur nous-mêmes. Je me souviens comme ça, par exemple, cette jeune femme qui me disait j'en veux à mon beau-père qui a humilié mon mari pendant des années et des années, l'a traité de nul, et maintenant j'ai en face de moi un homme qui n'a pas confiance en lui, qui face à ses enfants n'arrive pas à s'affirmer, doute en permanence, se dévalorise, j'en veux à mon beau-père de ça. Oui, et donc voilà, du coup il y avait pas un tort directement fait à cette jeune femme, mais il y avait un tort fait à son époux, évidemment elle se sentait concernée, et lui-même comme homme avait du mal à dire comment est-ce qu'il va se construire comme homme et comme père, voilà, ça va lui coûter davantage. Mais là il peut y avoir une réconciliation, un pardon en tout cas, ne pas rester dans la rancœur, parce pourquoi la blessure comme une blessure physique. Une blessure, il faut que ça se cautérise, sinon ça suppure et ça peut s'infecter. Mais ce qu'on comprend au plan physique, pourquoi est-ce qu'au niveau de l'âme, on ne le comprend pas? C'est ça qui est difficile. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas au niveau de l'âme que le pardon et cette cautérisation, ce soin, ce baume apporté sur la blessure? Pour pas que nous continuions à sanguinoler, pardonnez-moi l'expression, toute la vie. Et à nous enquister, et on voit bien une plaie mauvaise, ben ça s'infecte, etc. Et ça peut nous pourrir toute la vie. Et le pardon, justement, fait que nous ne voulons pas laisser le dernier mot à la souffrance et à l'offense. Nous croyons, parce que nous nous appuyons sur le Christ lui-même, que le pardon que le Seigneur nous demande de donner, nous a donné à nous-mêmes, eh bien, est possible. Parce que lui l'a fait. On ne s'appuie pas sur nos forces personnelles, notre générosité, peut-être notre générosité, elle est complètement à plat, mais on s'appuie sur un acte de foi. Seigneur, au nom de ce pardon que tu as donné sur ta croix, et au nom de ta passion et de ta résurrection, eh bien, je veux donne-moi la grâce de donner aussi cette réconciliation et ce pardon à un être qui m'a fait du tort. Donc, c'est intéressant de voir que le christianisme, au fond, est au cœur même de la réconciliation, mais en même temps, avec deux conditions. Quelles sont les deux conditions? La première condition, au fond, c'est l'incarnation du Fils. On peut dire une condition plus théologique. Alors, ça peut être intéressant de voir ça, c'est peut-être un peu difficile de dire qu'au fond, on ne croit à un pardon que parce qu'on l'a vu à l'œuvre en Jésus. Et ça nous donne une espérance. On a vu à l'œuvre en Jésus le pardon qu'il a donné à ses bourreaux, pardonne leur père, ils ne savent pas ce qu'ils font. On a vu la victoire de l'amour en la résurrection. Et donc, quelque part, une des conditions, c'est pour ça que nous, on accepte, parce qu'on a vu cet exemple que le Christ nous a donné, qui rend possible, à nouveau, une véritable espérance qu'un lien peut se tisser entre Dieu et nous en Jésus-Christ et entre nous parce qu'il nous l'a demandé et le rend possible. Donc, première condition, l'incarnation du Fils, vraiment son humanité nous donne un soutien dans le pardon. Deuxième condition, c'est que nous sommes aussi, dans le christianisme, enclins à prêcher une modestie dans la réconciliation ou dans le pardon. Une modestie, ça veut dire que, certes, il y a des gestes à faire, des paroles à dire, mais il n'y a pas une plénitude. Parce que l'offense, parfois, nous a blessés profondément. Et donc, il n'y a pas une plénitude, c'est-à-dire que, de temps en temps, même si nous avons pardonner, nous avons, ben voilà, quand il y a eu une offense qui a été faite et qui nous a gravement blessés, ça refait surface. Parfois de choses que donc on n'aimerait pas voir, et puis bon. Donc tant que, au fond, le Christ n'aura pas tout mis sous ses pieds, hein, c'est-à-dire tant que Dieu ne sera pas tout en tous, il y aura une certaine fragilité de la réconciliation, une certaine imperfection. Et même s'ils sont indispensables, les gestes que l'on pose, les paroles que l'on dit, eh bien, elles s'atteignent à un certain degré, mais on sait bien, on ne va pas forcément se jeter dans les bras l'un de l'autre alors qu'on s'est tapé dessus avant. Je veux dire, mille noms d'oiseaux. Et donc, je crois que c'est vraiment intéressant que de dire cette modestie. C'est pas parce que il y a une modestie dans la réconciliation qu'il faut pas faire les pas. Mais ces pas-là, ces gestes-là, ces paroles-là, sont des signes avant-coureurs d'une parole ultime que le Christ va dire au moment où il viendra juger les vivants et les morts. Vous comprenez? Donc, il y a une modestie, en tout cas le christianisme prêche pour une modestie, et nous invite aussi à faire le deuil d'une communion parfaite entre les êtres humains. On sait bien qu'il y a des personnes qui sont mortifères, qui sont nocives. Comme il y a des substances nocives, mortifères, il y a des personnes qui sont mortifères et nocives, dont il faut s'éloigner, dont il faut se préserver. Préserver notre famille, préserver pour nous-mêmes au plan de l'équilibre psychologique et spirituel. Voilà, c'est des personnes qui sont comme ça. Parce que c'est parfois la maladie, c'est parfois le désir de détruire, c'est souvent un mélange des deux. Voilà, mieux vaut. Voilà. Donc on reconnaît quelque part, on s'humilie devant le Seigneur. Ben voilà, Seigneur, avec cette personne-là, ce sera juste pas possible. Ce sera pas possible. Parce que c'est assez à la mode ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Voilà, c'est les personnes qui. Qui ne voient pas l'autre vraiment comme il est, tout est en fonction d'eux-mêmes, et forcément ce sont les autres qui ont des difficultés, pas eux. Mais c'est presque une maladie, c'est presque pathologique dans certains cas. Hein, ou toutes les difficultés pour les personnes bipolaires, par exemple, ça c'est aussi une pathologie, qui passe de l'excès de l'enthousiasme et de l'exaltation jusqu'à la déprime la plus profonde. Vous voyez, on ne peut pas. Il y a des personnes qu'on ne peut pas porter. En tout cas, pas quand on est trop proche. Et d'autres, ou à plusieurs, en équipe, et donc dans une thérapie, oui, on peut peut-être les porter. Mais c'est important de dire qu'il y a des... Donc on fait le deuil d'une communion parfaite. Même si c'est l'invitation et même la sommation du Seigneur de nous demander de pardonner à ceux qui nous ont offensés, on fait le deuil d'une communion parfaite entre les êtres humains. Ce sera dans la gloire que la communion sera parfaite. Parce que là, il n'y a que l'amour. En dehors de ça, on fait ce qu'on peut. On peut poser des actes, on peut très bien au moins pardonner intérieurement, c'est-à-dire même si on ne veut plus avoir de lien, parce qu'on sent que ça nous détruit trop, eh bien, au moins intérieurement, penser à l'autre en l'aimant, lui désirer le bien, s'attrister du mal dont il peut souffrir, c'est déjà un signe du pardon. Vous voyez, là où on voit qu'on n'a pas pardonné, c'est que la personne qui nous a fait du tort, qui lui arrive du mal, eh bien, cette personne-là, si je me réjouis, je me dis, il a bien fait pour lui, tiens, ou pour elle. C'est que je n'ai pas encore pardonné. Et c'est que c'est, mon cœur n'est pas encore en paix. Donc le travail est à faire sur moi, ce n'est pas sur l'autre. C'est d'abord se changer soi-même, le pardon. D'où l'importance d'une vie spirituelle, d'une vie de prière. C'est pas par hasard que c'est au cœur même de la prière que le Seigneur nous a enseigné que le pardon nous est demandé. C'est que le pardon et la prière sont absolument indissociables. En espagnol, il y a un dicton comme ça qui dit « Perdonar es divino ». Pardonner, c'est divin. Parce que c'est que Dieu qui peut pardonner. Et donc, c'est intéressant de voir que au cœur même de notre vie, eh bien, ce pardon que le Seigneur veut nous donner, eh bien, il s'accomplit, bien sûr, par le grand sacrement de la réconciliation, mais aussi, quelque part, chaque sacrement vise la réconciliation. Parce que chaque sacrement, c'est les sacrements du salut. Et le salut, c'est un pardon. Quand on se marie, parce qu'on vous dit, quand vous passez en registre, en liste là, les sacrements, alors le mariage, et c'est là parfois où c'est compliqué, c'est demander un salut pour notre couple. Notre couple a besoin d'un salut. Même les jeunes amoureux qui viennent juste à l'instant même d'échanger leur consentement, ils ont besoin d'un salut. C'est ça la réalité humaine. Leur amour a besoin d'être sauvé du péché, de la tentation, de l'épreuve, etc., etc. Et c'est vrai que ça pose de grosses difficultés lorsque, par exemple, le mariage est prononcé, les échanges du consentement sont dits, sans aucune notion de salut, ce qui est 90% des cas. Le pape Benoît XVI demandait, mais y a-t-il vraiment sacrement dans ce cas-là? Quand l'enfant n'a pas du tout conscience que notre couple a besoin d'être sauvé. Et même personnellement, je n'ai même pas conscience de ça. On est là pour le côté grandiloquent de la célébration. C'est un autre sujet. Mais donc du coup, vous voyez bien que... Et vous voyez, évidemment, le baptême, c'est le salut, forcément. L'onction des malades est aussi un salut. C'est le pardon des péchés dans l'onction des malades. C'est intéressant, ça, de voir ça, l'onction des malades. Voilà, et puis vous, l'Eucharistie, bon, vous passez les uns à la suite des autres. Hein, tout est orienté au salut. Tout est orienté à la miséricorde. Ça ne veut pas dire une... qu'on va pactiser avec le péché. Non, on va le dénoncer. Justement, il y a miséricorde parce qu'on voit qu'il y a péché. Mais le problème, c'est quand on ne voit plus qu'il y a péché, ben on n'a plus besoin de miséricorde. Et du coup, c'est intéressant de voir le dernier article du droit canon. Je ne sais pas si vous avez déjà feuilleté le droit canon pour vous endormir. Non, mais c'est bon, c'est un bon somnifère. Donc du coup, et le dernier article... J'aurais dû apporter ça, tiens. Au fond, il dit, tous ces articles que nous venons de voir, tout vise le salut des âmes. C'est-à-dire que, par exemple, in articulo mortis, au seuil de la mort, toutes les permissions sont données. Les permissions sont données. Par exemple, un prêtre qui a défroqué, s'est marié, ne peut plus donner les sacrements, il voit en face de lui une personne qui est en train de mourir, il peut donner l'absolution parce qu'il est prêtre pour l'éternité. Tout est levé, toutes les interdictions, tout est levé, parce que toute vue, on n'est pas là pour faire le respect d'une loi, on est là d'abord pour le salut. Donc, voilà, juste pour vous, d'où l'importance justement de reprendre dans l'Église la main là-dessus. Il y a une désaffection du sacrement de la réconciliation, parfois même chez les prêtres, eux-mêmes qui ont besoin de ce sacrement, mais il y a une désaffection, mais aussi parce qu'il y a cette perte de conscience du salut du Christ, et donc d'une espérance, parce que c'est lié les deux. S'il n'y a pas de salut, où est l'espérance? Où est-ce qu'il y a un destin commun? Où est-ce qu'il y a quelque chose qui va transcender ma nature blessée? Ou est-ce qu'on en est réduit à nos psychologies plus ou moins équilibrées? Ou est-ce qu'il y a une espérance? Et c'est vrai qu'une société, en particulier la nôtre, qui renvoie la dimension spirituelle uniquement dans le domaine du privé, avec cette laïcité à la française qui n'est pas équilibrée, eh bien, c'est une société qui aussi met de côté l'espérance. Mais quand on n'a plus d'espérance, c'est la porte ouverte forcément à la violence. Parce qu'un homme désespéré, ou une femme désespérée, peut être très très violent, parce qu'on n'est pas fait pour ça. C'est entre autres la raison pour laquelle... tout cas en Europe, ce n'est pas le cas aux États-Unis, mais en Europe, quand on dit qu'on condamne quelqu'un à perpétuité, c'est jamais à perpétuité. Pour ne pas le désespérer. Parce que c'est contre-productif, ça provoquerait plus de mal que ça n'en enlèverait. Qu'est-ce que c'est pardonner si ce n'est convertir le mal? En tout cas, une chose que ça n'est pas, c'est oublier. Dieu ne nous demande pas d'être amnésique. Quand il demande le pardon, il ne nous demande pas l'amnésie. On ne peut pas oublier. Je vous demanderai d'oublier votre numéro de téléphone. Là, volontairement, vous voudriez l'oublier, vous n'y arriverez pas. Quand on oublie, forcément, c'est involontaire. Or là, dans la demande du pater, il nous demande au contraire de mettre en route notre volonté. Et donc du coup, c'est intéressant de dire que pardonner n'est pas oublier. Alors, je me souviens de l'offense que j'ai pu causer ou que j'ai reçue, mais je veux dire, c'est convertir le mal, c'est-à-dire de faire que ce qui nous séparait maintenant nous unit. Je m'appuie sur le mal pour revendiquer la communion. Vous voyez, je m'appuie sur le mal pour revendiquer la communion. C'est vivre le mal, vivre la souffrance avec une certaine paix. Et n'oublions pas que c'est aussi lié à une béatitude, cette miséricorde. Ils seront appelés fils de Dieu. Et donc, cette miséricorde-là, eh bien, avoir du cœur pour la misère, c'est pas si évident que ça. Et eh bien, c'est quelque part quand je pardonne, il y a quelque part l'anticipation du ciel. Il y a un petit goût du ciel qui m'est donné. Une petite fenêtre qui s'ouvre. Et on le sait bien, nous qui sommes déjà adultes, qui avons un certain nombre d'heures de vol, on sait bien que ces difficultés de relations dans les familles en particulier, parce que ce n'est pas des personnes inconnues qui vont nous blesser, mais des familles, eh bien, on voit bien comment on a besoin de réconciliation dans la famille. On a besoin de remettre dans l'amour de Dieu nos différends. Autant que faire se peut. Et autant que l'autre reconnaisse. Si l'autre est complètement bloqué, verrouillé, ne veut plus nous voir, ne veut plus rien avoir à faire, souvent pour des questions d'argent et d'héritage, eh bien, c'est compliqué, quoi. Ben voilà. Il reste toujours la démarche personnelle à accomplir. Donc c'est lié à une miséricorde et à une béatitude. Au fond, le pardon fait que je peux retrouver une certaine confiance. C'est aussi un autre point qui est intéressant de dire comment est-ce que je sais que j'ai pardonné? Parce que c'est pas évident. Alors que les dégâts réalisés sont importants. Comment est-ce que je sais que j'ai pris? Eh bien, parce que je peux retrouver une confiance en l'autre. Je pense par exemple à un cas que j'ai accompagné de manque de fidélité dans le mariage. De personnes très catholiques, très tout ce que vous voulez, etc., très, très impliquées dans leur foi. Et lui, bon, a entretenu une double vie pendant un certain temps. Évidemment, c'est compliqué, parce qu'ensuite, vous mettez à la place de l'épouse, tout son monde s'est écroulé, soit c'est 10 ans, 15 ans de mariage, les enfants au scout, voilà, tout bien comme j'ai toutes les cases, quoi, entre guillemets. Hein? Bien sous tout rapport, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire, bien sous tout rapport? Et donc, du coup, voilà, et son mari lui avoue, à la faveur d'une lettre qu'il reçoit chez lui, lui avoue ce qu'il a fait, etc. Évidemment, c'est l'effondrement. L'effondrement d'une vie, je veux dire. C'est juste À nous, ça nous arrive. Moi, que ça nous arrive à nous, mais c'est dingue. C'est dingue. Donc, à quoi je vais voir que je vais pardonner? Si je retrouve une confiance. Alors, lui a demandé pardon, et elle a reconnu, etc. Et puis, elle a... Vous voyez, c'est pas facile, parce que du coup, il arrive en retard du travail. Où est-ce qu'il est? On peut pas ne pas se poser la question. Vous voyez, ensuite, c'est comme une plaie, ensuite. C'est comme une... Ça ronge, ça comme un ver, la méfiance. Et donc, c'est intéressant de pouvoir nous-mêmes prendre conscience à quel point, justement, la confiance retrouvée va être le signe du pardon. Et c'est dans le Seigneur que ça se passe. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est simplement une démarche psychologique humaine. Il y a à un moment donné, nos pauvres forces, nos petits points ne suffisent pas du tout dans une situation pareille, parce qu'il n'était pas question de se séparer ni quoi qu'est-ce. Je veux dire, ils étaient tout à fait amoureux en même temps. Hein, mais bon, il y a la fragilité particulièrement des hommes parfois. Et du coup, ben voilà, de se dire, je me remets dans le Seigneur. Au nom du sacrement de mariage, au nom de ce sacrement, je me sens impauvre, j'ai besoin d'un salut. Et le sacrement du mariage, c'est le salut qui m'est donné. À nouveau. Qui est accessible. Alors c'est un chemin, forcément, hein, c'est un chemin, puis avec des hauts et des bas, vous l'imaginez. Mais du coup, c'est ça, faire que l'offense ne m'arrête pas dans l'amour. Pardonner, c'est vouloir continuer à aimer l'autre coûte que coûte. Peut-être en m'en protégeant, hein, on l'a vu, parce que c'est difficile, mais c'est pas pour ça que je veux pas, je l'aime pas. Que dans mon cœur, je ne lui désire pas du bien. Et donc c'est là où on se sent vraiment pauvre aussi, nous-mêmes. On se sent pauvre dans le sens où on découvre dans notre vie que sans l'aide du Seigneur, qui est au cœur même du processus de réconciliation ou de pardon, que ce soit au début, au milieu, à l'achèvement, la présence du Saint-Esprit, la présence de la prière des saints, de la Vierge Marie, vraiment est au cœur même. Il n'y a pas de pardon sans transcendance. Vous voyez, c'est pour ça que le christianisme est appelé comme par des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est la religion de l'amour, parce que quelque part cette manifestation de Jésus qui vient dans notre humanité, Dieu fait homme, eh bien, nous tire vers le haut. Et c'est vrai qu'on sort d'une crise par le haut. On sort d'une crise dans la prière. Pour remettre peut-être toute la violence qui m'habite. Ben oui. On sait très bien, nous qui sommes adultes, que nous sommes capables du pire. Il y avait les messieurs à qui j'ai parlé de ça, là, c'était samedi, pas l'autre samedi. Et un monsieur qui me dit, mais on toucherait à mes fils, mais je ne sais pas ce que je serais capable de faire. Et il a raison. On toucherait à quelque chose auquel vous tenez, comme votre famille. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Donc c'est important de dire, on est vraiment, c'est dans la prière, c'est dans une dimension verticale aussi, dans une dimension transcendante que ce pardon-là est donné. Ce n'est pas une négociation. Et c'est pour, d'où l'importance de la prière en famille. C'est capital si vous pouvez mettre ça en place dans vos familles, dans votre couple, etc. Mais c'est parce que c'est justement, ce sera le ferment, le terreau favorable pour des réconciliations. On pourra peut-être s'engueuler, oui, on sera peut-être pas d'accord, ok. Mais on priera et on se mettra à genoux ensemble. Une famille unie, c'est pas une famille où il n'y a pas de dispute. c'est une famille qui termine à genoux ensemble. Si vous construisez ça, là, vous pouvez vous endormir en paix. Vraiment, parce que voilà, ça c'est vraiment, je trouve, c'est c'est ça la bonne éducation. Faire que vos enfants puissent aussi se retrouver dans la prière. On sort d'une crise par le haut, en réaffirmant ce qui fait notre unité, comme couple, comme famille, en faisant mémoire de l'amour qui nous unit. Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu cette certitude, je pense à la vie de couple en particulier, je n'ai pas eu cette certitude que c'était toi que j'ai voulu aimer. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a aussi porter, même si c'est compliqué, et nos vies sont compliquées, parfois les vies de couple aussi sont compliquées, c'est savoir aussi porter la difficulté ensemble. C'est pas jeter l'éponge trop tôt. C'est porter la difficulté ensemble. La porter dans la prière, si on partage la même foi. La porter dans la patience, dans le temps. Parce que parfois, il nous faut du temps pour reconnaître. Oui, alors, est-ce que c'est quoi trop bon, trop, c'est trois petits points, c'est ça c'est... Moi, je pense que celui qui parie sur la communion a toujours raison, et toujours finalement vainqueur. Pardonner peut aussi demander que l'autre change. C'est-à-dire, si, même si Jésus, vous vous rappelez très bien dans le passage, hein, pire, mais jusqu'à combien de fois on doit pardonner? Jusqu'à 7 fois? Et Jésus nous dit jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire que c'est tout à fait le comble au fond. Hein. 70 fois 7 fois. Donc, c'est sûr parce qu'on se dit, mais ma question est, parce que ce que vous posez comme question, c'est tout à fait juste, mais y a-t-il un autre chemin? Ce serait quoi d'autre l'autre chemin? Ce serait la rancœur? Ce serait faire payer à l'autre? C'est vrai, c'est ça qui m'habite aussi.
Ça pourrait être beaucoup plus pensé.
Ben, on peut pas. Voilà, juste les questions, c'est à la fin, je pense. Hein. Je sais bien de se rappeler ça, les questions, c'est à la fin. Donc du coup, je crois que c'est important de se dire, enfin, ça, parce qu'on peut se dire, pardonner, mais on peut demander un changement aussi à l'autre. On peut demander, enfin c'est ça aussi peut-être qui va l'aider à changer, sauf s'il profite de mon pardon et abuse de ma bonté. Et si vraiment on sent que la vie commune, par exemple, n'est plus possible, bien on met une distance. Mais on s'humilie en disant, on n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé. Mais on s'humilie en reconnaissant l'échec, ben voilà. Je ne peux plus, parce qu'on a tous nos limites dans le fait de porter des situations de difficulté, et particulièrement relationnelles, on a tous nos limites. Donc c'est important nous-mêmes que, en tout cas, nous allions jusqu'au bout, au moins, de nos limites, et puis surtout de la main du Seigneur. Quoi, ça peut être parfois au dernier moment de la vie aussi qu'une personne se reconnaît. Hein. Je me souviens de ce témoignage comme ça d'une femme, je ne sais pas si vous la connaissez, Maïti Gertamer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Maïti Gertamer, qui est une femme qui a été dans la résistance, et jeune femme pianiste virtuose, prise, elle était du côté de Blois, si je ne me trompe pas, donc, et elle faisait le passage de la Loire, donc entre zone occupée et zone libre, et elle était prise par les Allemands et confiée à un médecin, non pas pour être soignée, mais pour des expériences sur les nerfs. Inutile de vous dire, les souffrances engendrées considérables. Et elle n'a pas pu marcher pendant des années, elle a pu remarcher, mais elle avait toujours ses souffrances où habiter, elle n'a bien sûr pas pu jouer du piano, pas pu fonder une famille, une jeune femme de 20 ans, voilà. Elle est devenue oblate franciscaine, donc elle s'est consacrée dans la famille des franciscains. Et le médecin qui lui avait fait ses sévices, autrichien, au moment de se voyant sa fin approcher, a réuni sa famille, a dit « voilà qui j'étais ». Tout le monde tombait à la renverse. Un homme bon, un grand-père admirable, un père de famille irréprochable, un médecin dévoué. Tout le monde tombait de l'armoire, complètement. Et il dit, j'aimerais bien retrouver cette femme. Pas pourquoi, ça l'avait marqué. Parce que je pense qu'elle lui disait, je prie pour vous, moi, quelque chose comme ça, du fond de sa cellule et de sa souffrance, et je ne vous en veux pas, etc. Et ce médecin dit, il m'a fallu 40 ans pour abandonner l'idée que le nazisme n'était pas la vraie solution pour notre société. Un médecin, c'est pas quelqu'un qui a des grosses études quand même, c'est pas un petit esprit. Donc, tellement son intelligence était formatée qu'en dehors du nazisme, il n'y avait pas de salut. Il m'a dit, il m'a fallu 40 ans. Et puis, ensuite, il faut que j'aille, avant de mourir, j'aille voir cette femme. Et donc, par des détours dont je ne me souviens plus, il arrive au chevet de cette femme, etc., et qui maintenant est décédée, et qui, elle parle allemand parfaitement, et donc ils ont parlé de choses et d'autres, se sont donné des nouvelles, se sont donné, etc. Et à la fin, au moment de l'embrasser, pardonnez-moi. Parfois, c'est à la fin. Vous imaginez que cette femme-là, elle a dû avoir de la violence contre son bourreau. Aux yeux du monde, une vie gâchée. Virtuose au piano, belle jeune femme. Mais bon, parce qu'elle est chrétienne, profondément ancrée dans la foi et dans cette tradition franciscaine, eh bien, bien sûr, elle a rebondi, elle a redonné une fécondité à sa vie, ce qui fait qu'aujourd'hui on en parle. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de dire que parfois c'est... Il faut des années, c'est là où c'est difficile, parce qu'on perd patience. On perd patience. On perd patience, on perd espérance, on perd cœur. On perd le cœur, parce qu'on se dit, mais au fond, on n'y arrivera jamais. On désespère de l'autre, parce que c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes trucs. J'ai eu beau lui pardonner 1000 fois, je ne sais pas quoi, des colères, des problèmes d'alcool, des problèmes d'infidélité, des problèmes de... J'ai eu beau pardonner je ne sais pas combien de fois, et c'est toujours encore maintenant. Jusque à quand, Seigneur, jusque à quand, hein? Combien de fois faut-il pardonner? C'est ça, c'est là où c'est divin. Parce que notre cœur, si je pouvais le passer à la moulinette, l'autre, ça fait longtemps que je l'aurais passé. C'est ça qui habite notre cœur, forcément. On est tous pareils. Mais c'est là où il faut se mettre. La parabole du créancier et du débiteur, vous vous rappelez, hein, un roi appelle ses créanciers. Justement, c'est à l'occasion de cette parabole que Jésus dit de pardonner 70 fois 7 fois. Il lui devait 100 millions de pièces d'argent. L'autre se jette à ses pieds. Je t'en supplie, Seigneur, je te rembourserai tout ce que tu as possible. C'est plusieurs vies de salaire. Alors qu'il était prêt à le vendre, sa famille, ses esclaves, etc., c'est bien pour rembourser. Et il est touché de compassion, ce roi, c'est Dieu, évidemment. Eh bien, lui pardonne. Et il sort, il voit un qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le prend au cou comme ça, rembourse-moi, rembourse-moi. Et il le fait jeter en prison pour être remboursé. Ce qui aide dans ces cas-là, quand on voit que l'autre change pas, c'est de voir à quel point nous, Dieu nous a fait miséricorde. Ça m'a beaucoup aidé cet apostolat comme aumônier de prison, dans le sens où forcément vous rencontrez des personnes qui sont très compliquées dans leur tête, dans leur cœur, etc. Mais je me dis, je me suis souvent dit, mais bon, bien sûr, je n'ai pas violé, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas braqué à main armée des banques, etc., ni dealé de la drogue, certainement pas. Mais est-ce que je n'ai pas à un moment donné souhaité la mort de l'autre ? Dans mon esprit. Et Jésus dit, celui qui déjà en pensée a désiré la femme de l'autre est adultère. Est-ce que je n'ai pas eu des pensées moi aussi adultères? Est-ce que je n'ai pas désiré la situation de l'autre? Est-ce que je n'ai pas désiré envier, jalouser? Alors je suis jamais passé à l'acte parce que voilà, par grâce de Dieu. Peut-être un jour je passerai à l'acte. Hein. J'espère que vous ne serez pas là, parce que sinon. Non, mais parfois on tombe de l'armoire, hein, malheureusement des exemples de prêtres qui posent des actes extrêmement graves alors que c'était des saints prêtres. Hein. Mais parce que rappelons-nous notre fragilité. Faisons mémoire aussi de ça. Même si c'est vrai que de ne pas voir l'autre changer, c'est usant. Et encore une fois, il y a des personnes dont il vaut mieux s'éloigner. Mais reconnaissons-le comme humilions-nous quelque part devant le Seigneur en disant, ben, j'y arrive pas. Ça demande un accompagnement. Vous voyez, ça demande un accompagnement pour voir où mettre le curseur. Parce qu'on n'est pas des supermans, des superwomen. On a tous nos limites. Et puis, un dernier point c'est de dire, au fond, comment est-ce qu'on peut voir qu'il y a eu pardon? C'est que j'avance dans ma vie, je construis quelque chose. Je ne reste pas à me morfondre, je ne reste pas dans cette attitude intérieure d'en vouloir, de victimisation. Et s'il m'a fait ceci, et il m'a fait cela, et si mon père m'avait aimé, et si moi, mes parents m'avaient donné si, je ne serais pas dans cette mouise, vous voyez, cette victimisation, vous voyez, et c'est le signe qu'il y a toujours, alors ça peut revenir de temps, mais que ce ne soit pas le fond de notre cœur. Mais ce qui nous permet de voir qu'il y a pardon, c'est qu'on a pu avancer, construire quelque chose. Je pense, vous connaissez Tim Guénard, en tout cas de nom, hein, Dieu sait si c'est un homme qui a était dans la violence, dans la délinquance, etc., dans une grande difficulté, dans des familles d'accueil, etc., avec tout ce que ça veut dire de souffrance. Et voilà un homme qui, moi, j'ai rencontré et que vraiment, moi, je m'a beaucoup impressionné, par sa paix, il a eu deux grâces dans sa vie, il a rencontré Dieu, il a rencontré sa femme. Et ça, voilà. Et maintenant, c'est lui, de sa blessure, est née une fécondité. Qui accueille des enfants placés par le juge, etc. Et c'est ça le signe du pardon. C'est que j'avance malgré. C'est que je construis ma vie, même si ça n'a pas été facile, même si. C'est ça, c'est un signe de résurrection aussi. Je ne suis pas dans le passé, je me projette au contraire, dans l'espérance.